News, demain, à partir de 15h. France Inter, la différence.
Daniel Mermel, là-bas si j'y suis, et hop, pip, répondeur.
Allô ? Allô ? Allô, allô ? Allô ?
Veuillez patienter, votre correspondant va vous reprendre dans quelques instants.
Je veux pas me réveiller. Je fais un rêve incroyable. On serait en démocratie, en république. Je veux pas me réveiller, j'entends des trucs à la radio comme si on était en démocratie. Je veux pas me réveiller. C'est Gabriel à Antibes. Bonne journée à tous. Bon rêve.
Mais je suis en train d'écouter votre émission là, arrêtez vos conneries. Vous me foutez des fous dans le dos, j'en ai des nœuds dans l'estomac. Mais il faut pas nous faire croire ça, moi j'ai envie de voter maintenant. Hein. Alors bon, c'est bien beau de proposer des trucs comme ça, mais maintenant, il faut le faire, hein, parce que moi je vote pour vous. Alors on y va maintenant. Mais vos idées, elles sont excellentes. Moi, je rêve d'entendre ce discours-là pour de vrai. Mais arrêtez de nous faire rêver. Il faut le faire. Voilà. Vous avez une idée excellente. On va le faire. Il faut le faire. Pour une fois que j'entends des discours intelligents, les bons sens, puis les hommes politiques se réveillent. Voilà. Mettons des gens intelligents au pouvoir. Moi, je vote pour le miracle. Voilà. Le miracle en force, le miracle vaincra. Vive l'utopie. Allez, utopie. Labourez-moi tout ça.
Ouais, Daniel, génial. Hein. J'étais coincé dans mon atelier, à la limite du hors-gel, avec neige dehors et plafond gris. Tout à fait dans le temps de la morosité ambiante générale. Et c'est à ce moment-là que ton émission d'aujourd'hui est venue me chatouiller l'oreille. Ça m'a fait stopper mon boulot tellement j'ai été interloqué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gouvernement citoyen? Est-ce que j'aurais loupé un épisode de ce qui se passe là coincé dans ma tanière? Alors j'ai mis quelques secondes à réaliser et du coup je suis allé couper le jus des machines et j'ai posé mon cul sur une chaise pour écouter. Eh ben crois-moi, ça fait du bien d'écouter ce qu'on a tous envie d'entendre. Des ministres citoyens engagés dans une vraie transformation de fond sans plus de discours débiles à propos d'une croissance à la mayonnaise à laquelle plus personne ne croit. Je fais partie d'emblée de ceux qui votent direct pour cet altergouvernement et prêt à sortir de ma tanière pour redevenir un vrai citoyen engagé. Hein. Merci, c'était Jean-Pierre de Grenoble.
Bonjour, merci pour ces fabuleuses émissions, Le Printemps Français. Une chose qui me choque, c'est que les auditeurs modestes et géniaux, je voulais juste dire qu'ils regardent bien car on a la possibilité de le vivre en vrai. S'ils regardent bien ce qui se présente aux élections, en espérant que ce sera une réalité. En tout cas, merci pour vos émissions fabuleuses. Didier de Saint-Front.
Bonjour. Un progrès est une utopie qui se réalise. Bon, ben alors écoute, à ce moment-là, Daniel, soyons fous, allons jusqu'au bout du rêve. Chez nous, on est deux à adhérer au miracle, donc on attend de savoir, Daniel, comment avoir un bulletin d'adhésion pour le miracle. Et adhérons tous et soyons tous fous. Allez, ciao ciao à tous.
Salut Mermet, bravo pour tes émissions. Moi j'adore ce type de démocratie qu'on a rendu plutôt populaire que libérale. Ah oui, bravo, ça c'est super. Il vaut mieux avoir une démocratie populaire qu'une démocratie libérale. D'ailleurs, ce n'est pas une utopie la démocratie populaire. Le précédent auditeur là qui parle d'utopie se trompe. La démocratie populaire, c'était formidable. Souvenez-vous, en RDA, les prisons étaient pleines. Des opposants au régime dit de la démocratie populaire. Allez, à ciao, bonsoir.
Bonjour, c'est Annelise de Toulouse. Demain, c'est mon anniversaire, demain, vendredi 10 février. J'aurai 56 ans et je vais voir mon rêve réalisé, voilà. D'ailleurs, il est réalisé. Ça y est, c'est fait. Maria, la Roumaine qui fait la manche, n'aura plus peur d'être arrêtée. Santa, notre ami, qui a dû repartir à Madagascar avec sa petite fille née en France, va pouvoir revenir continuer ses études. Et puis Yolande, qui galère pour son boulot, eh ben, elle va arrêter de galoper de Toulouse le matin à la Guyane le soir. Et je pourrais vous en citer plein comme ça. Alors ça y est, c'est la révolution. Eh ben, merci à tous, c'était le plus beau cadeau d'anniversaire que vous pouviez me faire. C'était magnifique, ça donne envie de rire, bien sûr, de rire énormément. Et on se dit, si c'était possible, voilà. chose que ce soit possible. Merci à tous. À bientôt.
Et ben voilà, résumé par Anne-Lise. Bon anniversaire d'ailleurs, Anne-Lise. Le sentiment général qu'on a entendu dans le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37. Ça fait du bien d'écouter ce qu'on a envie d'entendre. Dit l'un de vous, mais pas seulement ça. On se demande si c'est vraiment un rêve, si c'est possible. On hésite. Vous vous souvenez de ce que disait Eduardo Galeano, l'écrivain uruguayen qu'on avait rencontré à Barcelone, il disait « Il y a un autre monde dans le ventre de celui-ci. » Alors c'est quand que ce vieux monde accouche du nouveau ? Il y a bien un moment où ça va se produire quand même. Si on peut accélérer un peu les choses, si la grossesse durait un peu moins longtemps, ce serait pas plus mal et on pense y contribuer, nous et pas seulement nous, mais en tous les cas, cet alter-gouvernement, vous savez ce qui s'est passé, souvenez-vous, nous sommes le 6 mai 2012, n'oubliez pas, le 6 mai 2012 a vu le triomphe du miracle, miracle, mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne. Contre toute attente, c'est ce mouvement qui a remporté les élections avec 55% des voix. On a vu, on en a fait état dans cette émission, le départ précipité de l'ancien président de la République en hélicoptère vers la Hongrie, son adversaire se recyclant, se reconvertissant, dans la location de pédalos, et puis ces 18 ministres citoyens prenant leur fonction à la tête de cet alter, le premier alter gouvernement de l'histoire, pas seulement de la République, mais de l'histoire tout court. Alors, on en a entendu quelques-uns ces deux jours derniers que Guy Vanctil a rencontré. On a rencontré Geneviève Azam à l'écologie, Suzanne Georges aux affaires étrangères, Jean-Marie Haribet à l'économie, Laurent Mucchielli au ministre de l'Intérieur, Paul Lemary à l'armement, à la défense. Et aujourd'hui, on va rencontrer Jean-Baptiste Hérault, ministre du logement, très important le logement, et puis Paul Ariès, également un des nouveaux alter ministres de cet alter gouvernement, encore, avez-vous dit, eh bien, la suite, la voilà, dans la base, j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Dis, le loup, tu pourrais pas les manger, ces affreux gardements qui nous font chier tous les jours à vouloir te faire manger des produits laitiers. Mais mange-les, une bonne fois pour toutes.
Hier, ce fut un jour noir pour la pseudo-démocratie espagnole. Le juge Garçon a été suspendu de ses fonctions. Il a perdu son poste de juge d'instruction. Il a été exécuté professionnellement pour avoir osé s'en prendre à la trame de corruption Gürtel, au scandale politico-financier le plus important de l'histoire de l'Espagne, dans lequel sont impliqués les dirigeants, l'appareil, les élus de la droite. Le président de la communauté valencienne est blanchi, alors que le juge qui le poursuivait se retrouve exécuté professionnellement. C'est une monstruosité, c'est le monde à l'envers. Le franquisme est encore enquisté en Espagne, dans les tribunaux, dans la justice, dans l'économie, dans la finance. L'Espagne reste à défranquiser, mais nous ne nous intimiderons pas. Ils veulent qu'on ne puisse plus juger la corruption, mais surtout, ils veulent étouffer la justice, la vérité, la réparation sur les crimes contre l'humanité du franquisme. 130 000 disparus dans des fosses communes, 30 000 enfants volés, voilà. Ils veulent perpétuer des décennies de silence et d'impunité, ils ne nous intimideront pas. Ce prétexte pour discréditer à tout jamais le juge de garçon nous vise à nous, association mémorielle. Moi j'ai 7 fusillés dans ma famille, j'irai jusqu'au bout de la revendication. Nous sommes tous des juges de garçon. Vive la République, vive la Tercera Republica. C'était Jean de Pau.
Les bigoudaines, ces femmes vêtues de noir, coiffées de mon désir, cachant sous leur chaloir le secret du plaisir, me furent si lointaines qu'au matin, sans un mot, je quittais Pont-Aven, le moral à zéro. Casanova, ma Bretagne en camping-car, août 1750. Explication, chaloir, du breton chaloineg, pièce de toile de forme triangulaire, dont les extrémités sont reliées entre elles par un fil de chanvre et servant de cache-sexe. Citation. Chaque dimanche avant la messe, Soisig, ma grand-mère, enfilait avec ferveur son plus joli chaloir. De Jean-Fernand Croupion, les dessous du costume breton. C'était Georges Philippe. Salut.
Édition spéciale, élection 2012.
On va maintenant rejoindre Jeff Wittenberg qui se trouve à la Maison de l'Amérique latine, boulevard Saint-Germain à Paris. Vous êtes aux côtés de François Hollande, je crois, Jeff.
France 2, 6 mai 2012.
Je suis très exactement au siège du Parti Socialiste rue de Solferino avec François Hollande qui tout à l'heure dans son discours a parlé, je vous cite, d'une pointe de frustration. C'est pas un peu plus que ça ce soir quand même qu'une pointe de frustration, cette défaite ?
Non mais je parlais de ce que doivent ressentir nos électeurs. Mais je leur demande aux uns et aux autres d'abord de rester calmes. Et puis d'être aussi rassemblés tout en tirant toutes les leçons du scrutin le moment venu.
Une belle campagne qui se conclut par une défaite. Est-ce que vous avez fait des erreurs selon vous quand même ?
Si on n'en avait pas fait des erreurs, on serait peut-être aujourd'hui en train de célébrer un succès. Et donc il y a forcément là une leçon à tirer. Je ne vais pas ici refaire l'élection présidentielle.
Oui, mais François Hollande, vous avez perdu ce soir. Pourquoi vous avez perdu ?
Nous avons sans doute pas assez parlé de propositions concrètes, d'aspects qui touchaient les Français directement.
Dernière question, vous attendez pas quand même à des remous au Parti Socialiste après cette nouvelle défaite de votre camp quand même ?
Il n'y a ici à prendre aucune excuse, mais je pense qu'aujourd'hui, la nécessité, l'heure, l'urgence commande au rassemblement, à l'unité et à la mobilisation.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil. 6 mai 2012, le printemps français, le libéralisme est foutu.
Place de la Bastille, la fête populaire. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir.
Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fît comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d'un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'on lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer et qui ne pourrait leur faire aucun mal s'ils n'aimaient mieux souffrir de lui que de le contredire. Chose vraiment surprenante et pourtant si commune, qu'il faut plutôt en gémir que s'en étonner, c'est de voir de millions d'hommes misérablement asservis et soumis, tête baissée à un joug déplorable, non qu'ils soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par un seul qu'il ne devrait redouter puisqu'il est seul, ni chérir, puisqu'il est, envers eux, tous inhumains et cruels. Telle est pourtant la faiblesse des hommes. Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez receleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue et traître de vous-même ? Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser. Étienne de la Boétie. Et sur ces mots, nous rejoignons notre reporter Guy Ventil au ministère du logement de l'alter gouvernement.
Là-bas, si j'y suis.
Comme on a vu, un des grands chantiers mis en œuvre par le nouveau gouvernement est le ministère du logement. Il y avait un ministère du logement et de la ville sous Fillon 1, mais il a été relégué suite au remaniement ministériel au statut de secrétariat d'État auprès du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Et les bureaux où j'ai téléphoné m'ont dit de ne pas, surtout pas venir, mais qu'il fallait plutôt que je me présente dans le 12e arrondissement de Paris, ici où je vous parle en ce moment même, au 29 boulevard Ledru-Rollin. C'est là où je dois retrouver Jean-Baptiste Hérault, nouveau ministre du Logement, alors qu'il était précédemment porte-parole d'une association DAL, Droit au Logement, semble-t-il. Voilà, je me présente. Alors, à première vue, on est assez loin des listes républicains, puisque c'est une vitrine avec quelques affiches collées là, des gens qui passent, quelques enfants qui font du roller. Et à l'intérieur, je vois des familles qui sont là, derrière des tables, en train de discuter, quelques poussettes. J'espère que je ne me trompe pas d'adresse. Bonjour madame.
Non, moi ça ne passe pas.
Oui, hein.
D'accord, je passe à la dame. Bonjour madame.
Bonjour.
Je suis journaliste à France Inter.
Oui.
J'ai rendez-vous.
Avec qui ?
Avec le ministre du logement.
Le ministre du logement ?
Ouais.
Ici ?
Ouais. On m'a donné cette adresse. C'est là où je pouvais trouver le nouveau ministre du logement.
Mais monsieur, le ministère du logement, c'est boulevard Saint-Germain. Ici, c'est le DAL, le droit au logement.
Mais on m'a dit que monsieur le ministre du logement me recevrait ici. Il m'a dit lui-même cette adresse, Jean-Baptiste Hérault.
Ah, Jean-Baptiste Hérault,
voilà.
Ministère du logement.
Ouais, j'ai rendez-vous avec lui, oui.
D'accord, fallait me dire tout de suite. Pour nous, monsieur Jean-Baptiste Hérault, il est babar.
Babar.
Babar. Voilà. Pour les centimes.
Voilà, je mets là dans la salle d'attente et j'attends.
Oui, vous attendez un petit peu, mais il va venir. Babar va venir. Il va vous faire rentrer.
Vous prendrez vos deux derniers bulletins.
Oui, voilà. Allez voir monsieur Jean-Baptiste Hérault.
Merci beaucoup. Monsieur. Merci, madame. Je suis le monsieur, là ?
Oui, oui. Bonjour.
C'est là, bonjour.
Bonjour.
Jean-Baptiste.
Je vais retrouver monsieur le ministre du logement.
Ah.
Bonjour, ça va ?
Bonjour, monsieur le ministre. Merci de me recevoir.
Ah, bah alors, hein ? Oui, ministère du logement.
Je vous suis ?
Bah ouais,
parce que là, il y a des réunions partout, des gens qui travaillent. Alors, on ne va pas déranger.
Bah ouais, on a beaucoup. Hein.
Surtout avec tous vos chantiers en cours.
Ah ouais,
bonjour, bonjour. Ah oui, et on passe en travers des piles de cartons, à travers quelques chaises pour arriver jusqu'à la table. On se met où ? C'est votre bureau ?
On se met là, bah ouais. On a déménagé il n'y a pas longtemps.
Et voilà, puis là, on est tranquille. Ouais. On est encore dans les cartons.
Voilà, parce que vous venez de déménager, comme vous me dites, mais parce que les anciens bureaux du ministère du Logement ont été réquisitionnés pour y loger des familles en grand besoin.
Exactement. Et donc, la place du Fontenoy, qui devait être vendue par le gouvernement à des spéculateurs, prestigieuse place du Fontenoy, qui est à côté de l'UNESCO, dans les beaux quartiers, eh bien, nous avons décidé d'en faire des logements sociaux. Voilà, c'est une mesure symbolique. Bon, c'est pas ça qui va régler la crise du logement.
Mais ici, maintenant, les bureaux du DAL sont devenus l'annexe du ministère du Logement.
Voilà. Bon, parce que finalement, en 10 ans de règne de la droite, le bilan est assez catastrophique. Et on a vu les bidonvilles réapparaître dans notre pays, doubler les expulsions locatives, augmenter par deux les loyers dans le privé, les prix de l'immobilier, les profits tirés de la spéculation et du logement cher. Le nombre de sans-abri a doublé d'ailleurs. Hein. On a vu également augmenter le nombre de logements vacants. On a vu même une loi qui prévoyait d'expulser en 48 heures et de détruire leur habitat tous ceux qui vivaient dans du logement hors normes, enfin, c'est pas reconnu.
Bon, des cabanons bricolés.
Voilà, des mobilos installés là où il faut pas, des caravanes ou des camions transformés en habitation, etc. Donc on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de très mauvaises choses. Et enfin, surtout les profits qui ont été engrangés, toutes ces richesses. On a calculé qu'entre 2000 et 2010, 450 milliards de surprofits ont été engrangés par les milieux de l'immobilier et les bailleurs. Donc là, c'était vraiment le règne de la cupidité et du profit. Je pense qu'on a passé cette période. En tout cas, vous pouvez être sûr que je ne laisserai pas revenir cette triste période de notre histoire où on a vu finalement la situation du logement se dégrader pour une grande majorité de la population.
Monsieur le ministre, une des mesures qui a fait le plus grand bruit après votre entrée en fonction et qui a fait le plus peur, c'est l'annonce de réquisition de logements vides depuis plus de 6 mois.
Ah oui, alors absolument. Évidemment, nous sommes obligés de réquisitionner. Nous comptons 2,1 millions de logements vacants dans notre pays. On n'en a jamais eu autant.
C'est quoi ces logements vacants ?
Oh, c'est des logements qui appartiennent à des propriétaires qui n'ont manifestement pas besoin. Certains d'entre eux, sans doute, ont des idées spéculatives derrière la tête. Donc, on laisse le logement vacant parce que s'il est occupé par un locataire, on le vendra moins cher. Mais voilà pourquoi nous allons réquisitionner. D'une part, pour limiter un peu la spéculation, et puis surtout pour loger des personnes qui sont sans logis, justement ceux dont on parlait, vivant dans des bidonvilles ou qui sont sans abri. On doit considérer que le logement est un droit fondamental et un bien fondamental qui a des fonctions sociales et qui n'est pas un instrument de la spéculation et de l'enrichissement de ceux qui ont déjà beaucoup. Voilà.
Mais concrètement, c'est possible ça ?
Oui, bien sûr, oui. Oui. Bien sûr, on n'est pas en 1917 à Moscou. Hein. Donc, les premières mesures, elles vont consister à faire baisser les prix des loyers, encadrer les loyers. On va mettre en place une baisse de 10% de l'ensemble des loyers, y compris en logement social. Parce que les loyers dans les logements sociaux ont augmenté également ces 10 dernières années, beaucoup plus vite que les revenus des ménages et que l'inflation en général. Donc, on encadre les loyers, on fait baisser les prix et on fait en sorte que le logement redevienne accessible à toute la population, tout simplement. On loge les gens. Dès lors qu'on bride les prix, qu'on décourage la spéculation immobilière, qu'on amène à des prix accessibles, bon, je pense que les couches populaires vont pouvoir, si elles le souhaitent, accéder à la propriété.
Parce que c'est ce que j'allais vous demander. Le président Sarkozy avait promis, au lors du moment de son élection, une France de propriétaires et que d'ici la fin de son mandat, plus personne ne serait à la rue. Alors est-ce que vous n'avez pas peur, monsieur le ministre, vous aussi, d'être confronté un jour ou l'autre au mur du réel, c'est-à-dire celui des finances publiques ?
Écoutez, nous préconisons des mesures qui ne sont pas coûteuses pour les finances publiques, puisqu'il s'agit d'une part de baisser les loyers. C'est pas les finances publiques qui vont le payer, c'est les bailleurs. De faire baisser les prix de l'immobilier de telle sorte à ce qu'il devienne accessible pour encourager la production de logements, de nouveaux logements en accession à la propriété. Mais vous savez, même la spéculation immobilière se met en place quand il y a des politiques qui encouragent la spéculation. Donc il faut rétablir l'imposition sur les profits immobiliers, surtout les profits immobiliers plus excessifs, les profits fonciers. Donc nous allons non seulement suspendre toute politique de défiscalisation, mais nous allons également supprimer les niches fiscales qui ont été accordées outrageusement, outrancièrement dans les années précédentes. Donc forcément, les prix vont baisser. Là aussi, nous allons vers une politique volontaire, délibérée des prix de l'immobilier.
Alors, quand on aborde cette question du logement, on s'aperçoit qu'il y a des villes qui jouent leur rôle et d'autres qui ne le jouent pas. Pour Neuilly-sur-Seine, Saint-Maur, Le Raincy, 171 villes ségrégatives hors la loi qui sont aujourd'hui en dessous des 20% de logements sociaux qui, normalement, devraient être le seuil en matière de droit au logement pour tous en Ile-de-France.
Reportage au Sarkozystan, 21 octobre 2005, Neuilly-sur-Seine.
Vous avez compris ce qui se passait là ? C'est une manifestation ?
Non, j'ai pas compris, je viens d'arriver.
Ces militants sont là en train de faire une action pour exiger l'application de la loi de solidarité et renouvellement urbain,
oui,
qui prévoit un taux de 20% de logements sociaux.
Oui.
Est-ce que vous trouvez ça gênant qu'il n'y ait pas de HLM ici à Neuilly, qu'il y ait moins de 3%?
Et comment voulez-vous faire des HLM avec le prix du terrain? Vous ne pouvez pas envisager faire des HLM avec un terrain qui vaut 3 fois le prix dans une banlieue un peu plus éloignée? Il n'y a pas un terrain disponible ici à Neuilly. Comment voulez-vous, vous n'allez pas foutre en l'air tous les immeubles qui sont là pour mettre des HLM? Comment voulez-vous mettre des logements sociaux qui sont indispensables? Tout le monde le reconnaît. Mais trouver les moyens financiers, c'est utopique de raconter
ça. Pour vous, si la mairie de Neuilly ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle ne pouvait pas.
Parce qu'elle n'a pas, elle ne peut pas trouver de terrain. Ce n'est pas du tout une volonté de lutter contre cette loi.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière de tenir à l'écart une population?
Absolument pas. C'est une loi de l'offre et la demande, c'est une loi universelle sur laquelle vous ne pouvez pas lutter. Quand il y a quelque chose qui est rare, il est évident que c'est cher.
Parce qu'il y a des gens qui disent, ben voilà, c'est un ghetto, le ghetto du Gotha.
Il y a une forte proportion de gens riches. Oui. Il est exact que c'est dommage que les professeurs des écoles ne puissent pas se loger à Neuilly et soient obligés d'aller habiter en banlieue. Mais ça, vous n'y pouvez rien, on n'y pourra rien. Ça m'amuse parce que, comme tout mouvement socialiste, il y a une partie utopique qui est pire que le réalisme parce que ça fait rêver les gens sans possibilité de réaliser leur rêve.
Ouais. Et là, le rêve d'avoir une mixité sociale à Neuilly, pour vous, c'est un rêve inaccessible.
C'est un rêve qui sera très difficile à réaliser.
À Paris, pour faire le point sur la situation, Daniel Mermet.
Eh ouais, c'était le 21 octobre 2005, à Neuilly-sur-Seine, au Sarkozystan, dans le ghetto du Gotha. Oui, il ne faut pas rêver, c'est utopique, c'est bien sûr, c'est une bonne idée, mais c'est absolument irréalisable. Nous connaissons cette chanson, elle est répétée sur tous les tons de 24 heures sur 24, elle est dans les têtes, elle est gravée, elle est tatouée, elle est partout. On n'y peut rien, il n'y a pas d'alternative. Et ben voilà ce qui s'est passé. Ce 6 mai 2012, avec 3 mois d'avance, là-bas vous révèle ce qui s'est passé. Le triomphe, le succès, la victoire du mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne et la constitution du premier gouvernement alter gouvernement. Nous retrouvons notre reporter Guy Ventil au ministère du Logement avec le nouveau ministre du Logement, Jean-Baptiste Hérault.
C'est CNH annulé, mais c'est l'autre, parce qu'il l'a reçu et moi il l'a envoyé.
Oui, ils ont annulé le 16 janvier.
Oui, mais c'est pas ça, c'est l'autre, 55. C'est 55 qui est important.
Ah, oula, il y a du monde. Article 55, je l'avais marqué. L'article 55, c'est la sanction pour les villes qui ont moins de 20% de logements sociaux. Tu vois ?
Mais c'est quelle ville ? C'est pour ça que c'est important.
Ah, c'est Neuilly, c'est quand ? Ah, c'est génial !
C'est le mercredi 25.
C'est merveilleux ! Il se trouve que le 25 novembre, je viens de l'apprendre, eh bien, nous allons à la commission de recours loi SRU dédiée au maire récalcitrant qui essaye en plus d'obtenir une exonération de l'amende. Et donc là, la mairie de Neuilly essaye depuis plusieurs années d'obtenir une dérogation.
C'est-à-dire que Neuilly ne veut pas payer d'amende pour ne pas avoir le quota de logement social sur sa commune.
Voilà, Neuilly est à 3 ou 4% de logements sociaux, alors qu'il lui faudrait 20%. Et ils ont toujours prétendu qu'ils n'avaient pas les moyens de faire des logements sociaux. D'une part, parce qu'ils n'ont pas de foncier, soi-disant, et d'autre part, parce qu'ils ne sont pas en mesure de préempter des immeubles, etc. Donc nous leur avons toujours dit, oui, le foncier et l'immobilier coûtent cher chez vous. Mais vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent, donc augmentez les impôts locaux. Avec ça, vous pourrez réaliser vos 20% de logements sociaux. Alors, mais ils ont évidemment refusé de le faire, toujours sur des principes libéraux. Et puisque on peut s'y aller, c'est qu'à Neuilly, n'importe qui n'est pas logé en logement social. C'est pas les mal logés de Gennevilliers ou de Nanterre qui sont dans les rares logements sociaux de Neuilly. C'est les riches, et c'est des riches qui sont logés en HLM. Donc on va faire une visite de Neuilly pour examiner dans quelles conditions sont logés les riches, en particulier ceux qui sont logés en logement social, et puis ensuite d'aller rendre compte de tout ça et de faire en sorte de rééquilibrer un peu les richesses et de lutter contre les inégalités qui se sont considérablement accrues, notamment en matière de patrimoine dans notre pays.
Mais alors qu'est-ce que vous faites de tous les commentateurs de l'ancienne majorité qui disent qu'on est en train de bâtir une France d'assistés ?
Mais non, parce que la France d'assister, c'est celle aussi qui va, soi-disant d'assister, c'est celle qui va construire les logements, c'est celle qui va organiser des coopératives aussi de construction. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que l'initiative aussi revienne aux habitants qu'on redonne, aux Français, du pouvoir dans la construction de leur logement, de leur habitat, de leur habitation, hein, pour organiser leur vie socialement, pour être solidaires entre eux. C'est important, on en a besoin aujourd'hui. Il faut justement recréer de la solidarité, mais de la vraie solidarité, pas la solidarité des copropriétaires qui sont solidaires pour pétitionner contre la construction de logements sociaux.
Bon, ben alors je vais aller voir les autres ministres. Qu'est-ce que vous me conseillez d'aller voir ?
Alors, il y a le ministre de la Ville, hein, bien sûr, hein, bon, qui a des choses à dire dans ce domaine-là.
Paul Ariès.
Voilà, Paul Ariès, je vous conseille. C'est un philosophe qui a beaucoup d'idées intéressantes.
Bon, je vous remercie beaucoup et je vous laisse travailler. Là, je vois que oui. Votre agenda est rempli. C'est maintenant définitivement un agenda de ministre.
J'arrive pas. Ça m'écorche les oreilles à chaque fois.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Ce sont les flammes d'une colère qui viennent embraser le regard de l'éparpillement de mes frères. Les copains du « c'est pas trop tard ». C'est une joie démesurée de faire les grandes découvertes de nos histoires sans passer, de nos conneries recouvertes. Notre fierté d'être sans haine et de retourner au charbon en gueulant « les gars, faut qu'on s'aime et le chemin sera moins long et c'est pas fini et ça continue ». Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fourrie. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. Si on fait la collecte des rires, c'est pour préparer nos combats. C'est parce qu'on sait pas trop quoi dire, à part regarder plus en bas. Et si on mélange nos pleurs dans une mer d'amitié, c'est qu'il nous reste un peu de peur et qu'on a su la partager. Quand de sublimes engueulades viennent allumer le petit jour, c'est la honte d'un monde malade. Et c'est pour ça qu'encore on courait. C'est pas fini et ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fou rire. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. Et vous êtes en timidité, tellement que vous aimez les autres. Pas besoin de vous imiter, passez, je vous aime, c'est vous mes autres. Quand la folie dévaste tout, on voyage par petits bouts de phrases, un tour de terre en rien du tout. C'est notre cafard qu'on écrase, quand on prend le temps de s'asseoir au comptoir des quand même contents. On se dit que ça s'appelle l'espoir, on se dit qu'on a encore du temps. Et que c'est pas fini et que ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fou rire. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. À la table. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur
Philippe Lémary,
ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Madame
Suzanne Georges,
ministre des Affaires étrangères et européennes. Madame
Geneviève Azam,
ministre de l'Écologie. Madame
Clarisse Taron,
garde des Sceaux, ministre de la Justice
de l'alter gouvernement du
Monsieur
premier
Mukieli,
alter gouvernement suite à la victoire du MIRAC, mouvement indépendant pour une réelle alternative. Pour certains, c'est même miracle, mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne de libération européenne, ou bien mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne libertaire et écologique. Chacun voit ce miracle à sa porte. Quoi qu'il en soit, c'est le printemps français, c'est the French Spring, après le printemps des peuples, le printemps de Prague, le printemps arabe, voici le printemps français. 6 mai 2012, une grande date dans notre histoire. Après cette rencontre fructueuse et enrichissante avec le nouveau ministre du Logement, Jean-Baptiste Hérault, nous rencontrons maintenant Paul Ariès, ministre de la Ville et de l'Économie.
Monsieur le ministre, Paul Ariès, monsieur le ministre de la Ville et du Commerce, nous avons l'occasion de vous suivre à l'occasion d'un de vos premiers déplacements. Nous vous suivons ici dans cette petite ville de la région lyonnaise qui s'appelle Grigny, où vous êtes venu à faire une série d'annonces et de mesures. Alors pourquoi ce déplacement ici ?
J'ai voulu que mon premier déplacement me conduise dans cette ville. Grigny a été en octobre 2011 et sera en septembre prochain le théâtre du premier forum de la désobéissance citoyenne. Et notre alter gouvernement en est largement issu. Les mouvements de désobéissance individuelle, collective, professionnelle, les villes désobéissantes ont permis d'en finir avec une politique hors sol, avec une politique sans le peuple. Et grâce aux centaines de villes désobéissantes, comme Grigny, comme Vaux-en-Velin, comme Saint-Denis, comme la communauté d'agglomération Les Lacs d'Essonne, mais je veux être un ministre désobéissant, c'est-à-dire un ministre à l'écoute d'une politique vivante, un ministre à l'écoute des expérimentations locales. Je crois que si notre altergouvernement peut servir à quelque chose, c'est tout simplement en donnant les moyens à ceux qui le souhaitent de multiplier les expériences, les alternatives.
Je vous remercie, monsieur le ministre. On va s'avancer vers la délégation qui nous reçoit avec le préfet, le conseiller régional, le conseiller général, les membres de l'équipe de la mairie, ainsi que le maire de cette ville de Grigny, monsieur René Balme, je crois.
René Balme, qui est non seulement le maire de cette ville de Grigny, mais qui est aussi, je dirais, un des premiers maires objecteurs de croissance. Un maire engagé, je dirais, dans la désobéissance, non pas au nom de l'illégalité, mais tout simplement lorsqu'il est nécessaire de savoir dire non pour défendre les intérêts des plus faibles.
Alors, monsieur Paul Ariès, ministre citoyen désobéissant de la ville et du commerce, accueilli par le maire de Grigny, je le rappelle, monsieur René Balme, monte à la tribune pour sa première allocution.
Monsieur le maire René Balme, je suis bien sûr très heureux de faire mon premier déplacement dans votre commune. Vous n'êtes pas seulement un maire désobéissant pour dire non aux lois injustes, vous êtes aussi un maire désobéissant pour développer des alternatives et je vais être à l'écoute de cette politique vivante, de cette politique qui n'est plus hors sol. Et je dirais que si notre altergouvernement a été désigné, c'est bien parce qu'il y a eu une foule d'initiatives. Les ministres de la ville ont oublié depuis longtemps que la première fonction de la ville est d'habiter et non pas de spéculer. Les ministres du commerce n'ont été jusqu'à ce jour que les instruments d'un consumérisme débridé. Mon ministère sera donc le premier à fixer des limites non seulement au développement du commerce, mais également au développement de l'urbanisation. Je ne serai pas le ministre du toujours plus, mais celui du moins mais mieux. Je serai le ministre du ralentissement de la ville, je serai le ministre de la sortie du consumérisme. Je vais être le ministre de la sortie de la grande distribution. Je serai le ministre du commerce de proximité et des coopératives. Et notre altergouvernement ne serait rien sans les initiatives qui existent au sein de dizaines, de centaines, de milliers de municipalités et de communautés d'agglomération qui ont montré que c'était possible, qu'il était possible de rêver, mais aussi d'organiser un monde dans lequel chacun a sa place. Nous avons beaucoup promis, le temps de l'action est maintenant arrivé.
Édition spéciale, élection 2012.
Ah, je vois que vous arrivez en terrain conquis, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur le maire. Bonjour.
Monsieur le maire, enchanté. Guy Vanctil, France Inter.
Enchanté.
J'accompagne la première visite officielle de monsieur le ministre. Exactement.
On vous suit. Soyez les bienvenus.
Merci.
Merci.
Oh là là, spacieux.
Extraordinaire.
On va pas se donner du monsieur.
Camarade ministre.
Camarade ministre.
Monsieur René Balme, maire de cette commune d'une dizaine de milliers d'habitants.
Oui, à peu près 10 000 habitants, oui. Située à 20 km de Lyon, bon, c'est une commune populaire puisqu'on a 35% de logements sociaux, avec une mixité ethnique et sociale qui est très très intéressante, 80 associations, ce qui crée aussi du lien. Donc c'est avec joie et beaucoup d'espoir aussi que les populations ont accueilli la nomination de Paul Ariès, ministre de la Ville et du Commerce, puisqu'on va pouvoir lui parler, le sensibiliser à nos problématiques de gratuité, à nos pratiques aussi de désobéissance, puisqu'on a décidé de désobéir. On se dit, quand la loi est mauvaise, on désobéit à la loi et on essaye de la faire changer.
C'est ce que j'allais vous demander, monsieur le maire, parce que normalement, le maire est le garant de l'ordre et de l'application des lois de la République sur la commune. Et comment se fait-il qu'on se mette dans une ville qui prône la désobéissance, qui est hors AGCS, c'est-à-dire l'accord général du commerce et des services qui est en négociation depuis des années sous la houlette de monsieur Lamy à l'OMC, qui est anti-OGM, qui refuse de faire des expulsions locatives et qui se bat pour la gratuité des services publics?
Oui, mais être garant de la loi, ça ne veut pas dire non plus appliquer n'importe quelle loi. La désobéissance, c'est pas l'anarchie. Voilà. Et quand la loi, elle est mauvaise pour les individus, quand elle porte atteinte à leur intégrité physique ou morale, notre responsabilité à nous, élus, c'est de désobéir à cette loi-là.
Bon, je me tourne vers vous, monsieur le ministre. En quelques mots, sur le message que vous avez voulu porter et sur votre venue ici.
Moi, je voudrais remercier monsieur le maire René Balme d'avoir accepté d'accueillir la mise en place de l'Agence nationale pour la gratuité des services publics.
C'est le loco que vous êtes venu inaugurer aujourd'hui.
Voilà, c'est le sens de ce premier déplacement de mon ministère. Un certain nombre de villes ont développé la gratuité de l'eau vitale. D'autres ont développé la gratuité des transports en commun urbains. D'autres encore ont développé la gratuité des services funéraires. Demain, ce sera peut-être la gratuité de la restauration sociale ou du logement social. Notre intergouvernement a choisi la gratuité des services publics car nous voulons répondre à la fois à l'urgence sociale et à l'urgence environnementale. Je vais donner deux directives à l'Agence nationale pour la gratuité des services publics. Tout d'abord, organiser un vaste mouvement de retour à la municipalisation des services publics locaux. Il faut favoriser la mise en régie. Il faut remettre en cause la logique perverse des partenariats publics-privés. La délégation de services publics doit redevenir l'exception. Mais je dirais que ce retour au régime municipal, c'est la condition pour développer de nouvelles politiques. Je prendrai là encore un exemple cher à la ville de Grigny, celui de la restauration scolaire. Il ne s'agit pas, lorsqu'on remet en régime municipal la restauration scolaire, de faire la même chose que les géants de la restauration collective. Il s'agit de développer une autre type de restauration, une restauration relocalisée, resaisonnalisée, biodiversifiée, une restauration faite sur place, avec si possible un service à table.
Je rebondis sur ce qu'évoquait Paul Ariès sur la remunicipalisation des services publics. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui se heurte au poids vraiment des intérêts ou alors simplement des économies d'échelle que peuvent réaliser des grands groupes? Je pense à la restauration scolaire. Sodexo, qui est un des leaders du marché, ne peut être que compétitif face à la petite cantine locale.
Mais contrairement à ce qu'on croit, non, c'est pas vrai. On en a des exemples au niveau de la restauration municipale où nous, nos coûts de production ne sont pas plus élevés que ceux des grands groupes qui font dans la restauration municipale. Tous ceux qui ont municipalisé l'eau arrivent à des coûts de revient qui sont bien inférieurs à ceux des grandes sociétés qui monopolisent l'eau aujourd'hui. L'assainissement, c'est pareil. Municipaliser l'assainissement, c'est faire des économies aussi parce que, de toute façon, il faut bien nourrir les actionnaires. Donc les gens qui viennent sur les marchés de l'eau, de l'assainissement ou de la restauration, voilà, les dividendes vont aux actionnaires. Nous, il n'y a pas de dividendes, on ne fait pas de bénéfices. Le service public ne fait pas de bénéfices. Le service public, il offre un service en direction de la population. Donc tout est municipalisable, tout peut revenir au service public à condition d'avoir une volonté politique forte et puis de ne pas avoir peur de se heurter à ces grands groupes qui, de toute façon, essaieront, bien sûr, de s'opposer à la municipalisation d'un certain nombre de services publics.
Chose promise, chose due, la majorité a mis en place la gratuité des transports. La gratuité, une mesure de justice sociale qui tombe à pic en cette période de crise marquée par la baisse du pouvoir d'achat. Une mesure appréciée et maîtrisée qui s'est également traduite par la remise à plat de la gestion des transports qui était à bout de souffle. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Elle signe la fin des inégalités.
Je dirais tout d'abord que notre altergouvernement ne conduit pas une politique idéologique, contrairement au gouvernement précédent. Notre politique est aussi fondée sur des expériences. Nous allons nous inspirer de ce qui fonctionne, comme le réseau international des villes lentes, comme le réseau des villes en transition. Le ralentissement passe déjà par le fait de libérer au maximum la ville de la voiture. Il est inadmissible
que la moitié de l'espace urbain lui soit consacré. Mais cela se fera sans pénaliser les milieux populaires, sans pénaliser ceux qui ont été expulsés dans les banlieues. Et nous le ferons donc en parallèle avec l'instauration de la gratuité des transports en commun urbains. Et nous le ferons en parallèle avec une politique de relocalisation des activités. C'est-à-dire que nous voulons en finir avec cette conception de la ville reposant sur des zones homogènes. Nous voulons absolument remettre une activité économique au centre de nos agglomérations. Et je souhaite également...
Comme des galeries marchandes, par exemple ?
Ah, sans doute pas. C'est-à-dire qu'il est évident que si nous voulons développer des centres-villes piétonniers, je dirais c'est également en soulignant que le fait que les rues piétonnes ne doivent pas être des rues vouées au commerce de grandes marques ni au commerce pour le tourisme, mais des rues vouées au commerce de proximité. Je ne serai pas le ministre des méga-centres commerciaux, je ne serai pas le ministre des supermarchés du cinéma, ni des grands projets urbains internationaux. Je ne serai pas le ministre des complexes d'affaires, des hôtels de luxe ou des boutiques de luxe. J'entends remettre avec l'alter-gouvernement en cause les logiques économiques dominantes, celles des soi-disant économies d'échelle, celles des calculs à court terme, qui sont aussi des calculs à courte vue. Et nous allons donner des instructions très strictes pour en finir avec cet urbanisme de coercition, avec ces bancs conçus pour empêcher les SDF de s'allonger ou les amoureux de s'épancher, avec le barricadement excessif des immeubles, avec le fond sonore conçu pour faire fuir les jeunes ou avec la vidéosurveillance. Nous allons véritablement rendre à la ville sa fonction première qui est celle d'habiter et non pas de spéculer. Et dire qu'on va être l'alter-gouvernement du ralentissement de la ville, c'est ne jamais oublier que la vitesse est toujours un facteur d'inégalité sociale. C'est-à-dire chaque fois que la société accélère, c'est toujours au détriment des plus faibles et des plus pauvres. Nous avons mis depuis un siècle et demi toute notre intelligence à inventer des prothèses techniques à accélérer et nous sommes arrivés à cette dictature des temps courts sur les temps longs et des temps rapides sur les temps lents. Il faut rendre à nos villes cette dimension humaine qui doit être la première dimension. De la même façon, si nous allons prendre des mesures pour développer ce qu'on appelle le droit à la nuit, c'est-à-dire cette diminution, voire l'extinction de l'éclairage public à partir d'un certain nombre d'heures, ce n'est pas simplement pour économiser de l'énergie, mais c'est pour rendre à la nuit son épaisseur, sa dimension humaine qui nous est indispensable pour créer du lien social. Nous ne serons pas l'alter-gouvernement du toujours plus, mais nous sommes du côté de la fabrique de l'humain. On ne s'en sortira pas si nous restons simplement des forçats du travail et de la consommation. Mais notre discours n'est pas de dire aux pauvres « vous allez souffrir ». Notre discours, c'est pas de promettre des larmes et du sang. Notre discours, c'est au contraire de dire « parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint les capacités maximales de la planète, eh bien, on ne peut plus repousser la grande question historique qu'est la question du partage ». Donc nous allons redevenir des partageux. Mais nous allons redevenir des partageux, non pas, j'allais dire, de façon triste, honnête et dans la grisaille. Nous allons redevenir partageux pour inventer ce socialisme gourmand, pour inventer ce socialisme de la décroissance.
Et là, normalement, il y a un torrent d'applaudissements.
Une foule en délire.
Ouais, c'est bien. Écoute, il est parfait pour les meetings, là, maintenant. C'est impressionnant. Bravo, Paul. Mais que dites-vous aux nombreux détracteurs, en particulier de ceux qui ont rejoint le gouvernement en exil mené par Laurence Parisot actuellement en Suisse, qui disent que, dans la même veine que l'annonce qui a été faite par la ministre de l'écologie Geneviève Azan de sortie du nucléaire, c'est le retour annoncé à l'âge de la bougie qui nous attend?
Je dirais qu'il faut laisser nos adversaires à leur fantasme. Ce qui est certain, c'est que la politique qui était menée par les gouvernements de droite et de la fausse gauche précédents et la politique proposée par ce gouvernement soi-disant en exil conduite par les milieux d'affaires internationaux ne peuvent que nous conduire dans le mur. Mais d'ailleurs, nous sommes déjà dans le mur. Le problème, c'est que les Notre planète ne souffre pas de trop d'humains. Elle souffre d'une injustice sociale. Nous ne manquons pas d'aliments. Il y a, comme le dit notre ami Jean Ziegler, un scandale politique qui fait qu'on choisit de produire ce qui n'est pas utile au plus grand nombre. Et je crois que face aujourd'hui à la situation dramatique que nous a laissé la droite et la fausse gauche, nous avons deux raisons d'être optimistes. La première, paradoxalement, c'est la crise écologique. Cette crise écologique fait qu'on n'a plus le choix. Nous ne pouvons plus repousser, refouler la grande question historique qui est celle du partage. Et la deuxième chose qui me rend paradoxalement aussi optimiste, c'est ce que les sociologues appellent la démoyennisation de la société, la fin des classes moyennes, cette génération des étudiants à bac plus 5 à 1000 euros. Cette démoyennisation de la société, ça peut être la pire des choses si ça développe un sentiment de nihilisme, si ça développe l'impuissance. Mais ça peut être aussi une chance historique parce que ça peut faire qu'une génération entière saura qu'elle n'a rien à attendre de ce système. Ça peut faire qu'on aura enfin ce sujet historique capable de porter ce nouveau mouvement. C'est-à-dire que nous sommes véritablement, je dirais, à la veille d'une métamorphose totale de la politique mondiale. Et si, je dirais, la victoire électorale qui a permis la désignation de cet alter-gouvernement a été possible, c'est bien parce qu'un mouvement historique qui nous dépasse est à l'œuvre.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Merci à tous et à tous. C'était troisième volet de notre édition spéciale sur cette historique 6 mai 2012 que nous venons de vivre et qui a vu, je vous le rappelle, la débâcle du libéralisme. Merci à notre grand reporter Guy Vanctil qui était sur le terrain avec les nouveaux ministres citoyens de l'altergouvernement victorieux. Merci à Jean-Baptiste Hérault, ministre du Logement, et Paul Ariès, ministre de la Ville et du Commerce. Monsieur le ministre Paul Ariès est également rédacteur en chef de la revue d'analyse politique Le Sarcophage, que nous vous recommandons chaudement, ainsi que son ouvrage Le Socialisme Gourmand, à paraître fin février aux éditions La Découverte. Nous vous rappelons que le programme de l'altergouvernement est disponible aux éditions Le Muscadier sous le titre « Altergouvernement, 18 ministres citoyens pour une réelle alternative ». Ça vous plaît tellement qu'on partira seulement mardi pour la Hongrie et lundi, on retrouvera encore deux ministres, deux nouveaux ministres, Monique et Michel Pinson-Charlot et Franck Lepage, évidemment, pour la culture. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org, et faire écrire des commentaires tant que vous voulez, ainsi que sur notre page Facebook à la technique aujourd'hui. Dofar Guéride et Jean-Philippe Jeanne, c'est Bertrand Chometon et Franck Adhérer qui ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages, je répondrai là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Réclame.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent les sonnets de Shakespeare par Marianne Faithfull.
Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date.
Accompagné par le violoncelliste Vincent Segal, Marianne Faithfull donne une lecture musicale des sonnets de celui qu'elle décrit comme son ami. Une soirée unique dans la grande salle du Théâtre de l'Odéon, mercredi 15 février à 20h. Retrouvez les sonnets de Shakespeare par Marianne Faithfull dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
On se retrouve lundi à 15h pour la basse. J'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaïa. Salut!
L'agence du médicament l'AFSAPS confirme cet après-midi le Primperan qui jusqu'ici était vivement déconseillé pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Et bien désormais, le médicament contre les nausées et les vomissements est interdit donc pour tous ces enfants, en cause un risque augmenté d'effets neurologiques. Les Grecs dans la rue pour protester contre les mesures d'austérité, les ministres de l'extrême droite qui démissionnent, nouvelle crise politique à Athènes aujourd'hui. Les mesures imposées par les bailleurs de fonds de la Grèce ne passent pas. En Espagne, en revanche, pas le choix. Le gouvernement conservateur a approuvé aujourd'hui une réforme du travail, réforme qui prévoit notamment la réduction des indemnités de licenciement. Il n'y a pas qu'en Grèce, dont on parlait tout à l'heure, qu'il y a une grève générale. En Israël, on en est au troisième jour. Les négociations entre syndicats et gouvernement ont échoué. Le conflit porte sur le statut et les conditions d'emploi de quelques 300 000 salariés intérimaires dans le secteur public et privé. En France, les syndicats réagissent aujourd'hui à l'interview d'un programme de Nicolas Sarkozy au Figaro Magazine. Force ouvrière juge inacceptable la proposition visant à réformer l'indemnisation des chômeurs. Le chef de l'État suggère que toute personne au chômage devra choisir une formation qualifiante à l'issue de laquelle il sera tenu d'accepter la première offre d'emploi correspondant à la formation en question. Et pour la faire passer, Nicolas Sarkozy envisage même le référendum. La CFE-CGC juge l'idée méprisante vis-à-vis des partenaires sociaux et réductrice. De son côté, le candidat du NPA, Philippe Poutou, juge aujourd'hui que Nicolas Sarkozy va toujours un peu plus loin sur le terrain réactionnaire avec ses propositions sur les chômeurs et les droits des étrangers. Trois sociétés sont candidates à la reprise de la raffinerie Petroplus à Petit-Couronne en Seine-Maritime. Selon les syndicats aujourd'hui, il s'agit des groupes d'investissement Gary Clesch, Goldsmith Group, ainsi que la société de services GEM Group. Tous trois ont jusqu'à ce soir pour déposer leur dossier. Les auteurs ou les commanditaires des crimes contre l'humanité en Syrie doivent être poursuivis devant la Cour pénale internationale. C'est l'avis de Navi Pillay aujourd'hui. La haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies évoquera d'ailleurs le cas de la Syrie lundi devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Aujourd'hui encore sur le terrain, la ville de Homs a été la cible des forces gouvernementales syriennes. Les chars ont donné l'assaut et dans la ville d'Alep au nord du pays, les bâtiments de la sécurité syrienne ont eux été visés par deux attentats. Il y a au moins 25 morts. À la veille du premier anniversaire de la démission d'Hosni Moubarak, des centaines d'Égyptiens marchent actuellement en direction du ministère de la Défense au Caire. Ils exigent toujours le départ de l'armée du pouvoir. Au Yémen, ils sont plusieurs milliers cette fois de personnes à manifester également aujourd'hui à Sanaa, dans la capitale. Manif pour soutenir l'élection présidentielle du 21 février prochain, prévue avec un candidat unique, en l'occurrence le vice-président du pays Hadi. En contrepartie de ce scrutin, Ali Abdallah Saleh, l'actuel président, accepte de quitter le pouvoir et il a obtenu aussi l'immunité pour sa famille. Comment faire la promotion de Vladimir Poutine à un mois de la présidentielle russe? Eh bien en imposant à des écoles d'acheter le livre consacré aux années d'écolier du Premier ministre. C'est le cas dans la région de Tver, où des établissements ont donc été priés d'acheter des centaines d'exemplaires de l'ouvrage rédigé par la professeure principale de Vladimir Poutine dans les années 60. Vous écoutez France Inter, 16h04.
Nous autres.
On est là pour trouver des solutions.
Zoé Varier.
Avec la hausse du chômage, les salariés de Pôle emploi se retrouvent encore une fois sous pression.
Il faut lui donner le plus qu'il peut faire qu'à un moment donné, ça change pour lui, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça le service public.
Manque de moyens, désorganisation du travail. Face à ce constat, certains agents font de la résistance.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
Tout le monde n'est pas là, Didier ?
Ils sont là. Yael est en face de vous. Le groupe R devrait arriver. Juste pour patienter, peut-être. Ils sont là, ils doivent être au cabinet.
J'ai un spectre de R à côté de moi.
Pour faire le plein d'air, un petit mix libre, celui du mois de février. Restez avec nous, Laetitia Gaillet. Un petit moment. Allez, c'est parti.
Ils viennent d'Angleterre et ils s'appellent Breton, en hommage au poète surréaliste André Breton. Plus qu'un groupe, c'est un collectif qui opère une combinaison corrosive entre pop, électro et hip-hop. C'est le grand retour du tandem Sportocantès avec un quatrième album qui poursuit son œuvre de fusion. Dans sa marmite fumante et iconoclaste où mijote électro, pop, dub et toujours cette énergie rock. S'appelle Greg Fontaine, auteur, compositeur, interprète. Il opère une échappée belle dans le peloton de la chanson française, entre pop de chambre et rock plus acéré.
Dans la Marie-Jeanne, les nuits blanches et l'alcool. L'esprit valse et condamne l'âme à la camisole. Peut-être un peu trop fier pour s'avouer trop fragile. Mais dans ce genre de guerre, la débauche est facile. La raison prit le large. Resterons-nous entiers après l'atterrissage? Après l'atterrissage.
Le trio danois Oum & Ou nous revient avec un album selon eux plus long, plus mélodique et basé sur de vraies chansons. Ils l'ont intitulé Brighter, en français plus clair, bien vu.
Tell us now what you're gonna do. We are leaving it up to you. It's not a problem, it's not a problem, it's not a problem.
Keep on moving in.
le mix libre. À retrouver en détail sur franceinter.fr. Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chanson, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Elle est née à Saint-Brieuc. Ils sont nés à Versailles et à Paris. Elle porte sa philosophie de vie dans son nom d'artiste. Ils ont choisi un nom de groupe qui traduit bien l'intensité de leur musique. Elle est une enfant de la toile et de son infini virtuel. Ils sont les disciples de François de Roubaix, lui qui déclarait « La musique, c'est fait pour décoller ». Elle est la force motrice d'un trio qui connaît la démocratie participative. Ils disent que leur duo est une alchimie qui n'a rien à voir avec l'addition de style. Elle s'est fait piquer, selon la web rumeur, quelques robes par Katy Perry. Ils parlent de leurs instruments comme s'ils étaient à la fois fétichistes et utilitaires. Elle aime la citronnade, l'odeur des pins, la sieste, le capfréel, les taglioni aux châtaignes. Ils aiment le clair de lune de Debussy, 2001 Odyssée de l'espace, le spectre d'autocar de Hergé, Cantilène engelée de Boris Vian.